Crédit Immobilier de Banque Atlantique, la solution pour financer vos projets immobiliers, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient jusqu'à 9h temps universel. Vous nous suivez à la radio et en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI. Dans 30 minutes, nous parlerons de la Guinée. Ce matin, j'attends vos témoignages sur le recensement biométrique de la population. C'est une étape indispensable pour constituer le fichier électoral en vue, bien évidemment, du référendum constitutionnel du mois de septembre, mais aussi des élections. Les élections qui sont censées marquer la fin de la transition. Les opérations sont en cours, elles ont d'ailleurs été prolongées jusqu'au 20 juin. Reste à savoir si ce délai supplémentaire suffira à recenser toute la population. De nombreux problèmes sont signalés ici et là à travers le pays. La saison des pluies commence. Faudra-t-il un nouveau report et du coup, quelles conséquences sur le calendrier électoral? Appelez-nous, exprimez-vous, vos témoignages nous intéressent. 33 9 693 693 93-70, vos réactions également sur nos réseaux sociaux. Je vois que la diaspora se mobilise également, notamment sur WhatsApp, avec des réactions de France, de New York, du Canada. RFI vous donnera la parole à partir de 8h40, temps universel. Mais d'abord, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Delphin. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde.
Au Bénin, c'est bien ça ?
Oui, à Calavi.
À Calavi, très bien, pas très loin de Cotonou, sur la côte. Exactement. Delphin, quelles sont vos questions ?
Pour lutter contre les arrivées massives de migrants au Royaume-Uni, la France envisage d'intercepter les embarcations en pleine mer. Pourquoi cela n'était pas fait jusqu'à maintenant ?
Ouais, c'est vrai que ça peut sembler paradoxal. La police française n'intercepte pas les embarcations de migrants en route vers le Royaume-Uni, alors que les traversées n'ont jamais été aussi nombreuses. Bonjour Charlotte Boitiot.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre, journaliste au site Info Migrants, dont France Média Monde est partenaire. Expliquez-nous pourquoi les forces de l'ordre françaises n'arrêtent pas les bateaux pneumatiques en pleine mer.
Et bah, tout simplement parce que c'est interdit, Delphin. Le droit de la mer n'autorise pas les policiers à intervenir en mer. Alors, qui gère la Manche ? Eh bien, c'est la préfecture maritime qui a autorité dans la mer. Et cette préfecture maritime, en fait, elle fonctionne avec une logique de sauvetage, conformément au droit maritime international. Et ça, c'est assez important comme nuance. C'est-à-dire qu'elle ne va pas procéder à des arrestations en mer, mais à des sauvetages de personnes en détresse. Donc, en fait, si je résume, les policiers, ils peuvent œuvrer sur le littoral, sur la plage. Mais ils n'ont pas le droit d'entrer dans l'eau. C'est pour cette raison qu'en fait, on assiste régulièrement, on voit dans les photos de presse parfois, des policiers français qui semblent assister impuissants en fait à des départs de petits canots pneumatiques en mer. C'est pas tant qu'ils ne veulent pas, qu'ils refusent d'entrer dans l'eau, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas le droit.
Et donc le gouvernement français voudrait finalement changer cette logique et permettre aux policiers d'aller en mer ?
Et il semblerait, oui. Alors ce sujet n'est pas nouveau. Ça fait des années que le Royaume-Uni fait pression sur la France pour qu'elle fasse plus. Ça fait des années que le Royaume-Uni demande à Paris envoyer des policiers en mer. Mais la France avait toujours dit non. Là, c'est vrai, Paris commence à céder. Alors peut-être parce que la pression britannique s'accentue au vu, vous l'avez dit, des arrivées records au Royaume-Uni.
On est à 15 000 depuis le début de l'année.
Exactement. En fait, c'est du jamais vu. Donc concrètement, Bruno Retailleau, via donc
le ministre de l'Intérieur.
De l'Intérieur français, a demandé à ce qu'on essaye d'élaborer une nouvelle doctrine d'ici cet été qui permettrait concrètement d'intercepter ces canots dans une bande de mer qui s'étendrait sur 300 mètres en fait, depuis le rivage.
300 mètres des côtes.
À 300 mètres des côtes, ouais.
En tout cas, le sujet divise au sein de la police. La police qui rappelle que les interceptions en mer ne sont pas sans risque.
Oui, en fait, à Info Migrants, on a contacté des policiers, des sources policières, et elles nous ont dit qu'elles sont assez inquiètes par ce projet d'interception en mer. Il faut imaginer un bateau de policiers, une vedette de policiers qui s'approche d'un canot de migrants, souvent surchargé, à bord duquel il y a des femmes et des enfants. La plupart du temps, aucun de ces migrants ne savent nager. Il y a parfois même des passeurs à bord de ces embarcations qui peuvent se montrer très agressifs, très violents. violents.
Parfois, ils sont même armés.
Et les policiers, en fait, redoutent que leur présence, que d'intervenir en mer, n'aggrave les situations de détresse et malheureusement ne mène à des drames.
Voilà, et je précise que depuis le début de l'année, au moins 15 personnes sont mortes en tentant de rejoindre les côtes britanniques. L'année dernière, ce sont 78 migrants qui ont perdu la vie sur cette route migratoire, un triste record. Delphin, a-t-on répondu à votre question ? Êtes-vous satisfait ?
Merci beaucoup, excellente journée à vous.
Remerciez surtout Charlotte Boitiot d'Info Migrants.
Merci à vous.
Exactement. Merci beaucoup Charlotte.
Bonne journée à tous les deux. Il est 8h16 en temps universel, 33 9 693 693 70. Vous écoutez le journal, vous souhaitez un complément d'information, on vous répond en direct. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite avec Achille. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à des Brazzaville.
À qui ça, pardon, j'ai pas entendu, il y a une micro-coupure.
Il dit bonjour, c'est à Lubumbashi.
Ah, Lubumbashi, bah, soyez le bienvenu, on adore les auditeurs de Lubumbashi. Quelles sont vos questions, Achille ?
Yuan, le Congo a décidé de mettre fin aux accords fonciers conclus entre les entrepreneurs rwandais. Comment expliquer cette décision ? Quelles étaient les spécificités de ces contrats fonciers ?
Oui, alors c'est une annonce qui est tombée comme un cheveu sur la soupe. C'était vendredi dernier, en conférence de presse de la quinzaine du gouvernement. Le porte-parole de la République du Congo a effectivement annoncé que les contrats de location de terres à des entreprises à capitaux rwandais avaient été annulés, et ce depuis le 8 décembre dernier. Des contrats qui, rappelez-vous, avaient été signés il y a 3 ans, et à l'époque avaient fait couler beaucoup d'encre, aussi bien du côté Congo-Brazzaville que de la République démocratique du Congo. Bonjour Paul Lorgerie.
Bonjour Juan.
Merci de nous rejoindre, journaliste au service Afrique de RFI. Expliquez-nous, Paul, pourquoi ces contrats sont désormais caducs.
Oui, merci Achille pour votre question. Le dossier est en effet terminé, a déclaré la semaine dernière le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Mungala. Selon lui, ces autorisations provisoires, et le provisoire est important, avaient été signées en 2022. Dans les clauses des différents contrats, les entreprises concernées disposaient de 2 ans pour faire leurs preuves et les Congolais espéraient de grands investissements. Mais après inspection sur le terrain en présence du Premier ministre congolais, les autorités du pays ont constaté qu'elles n'avaient pas eu de retour des entrepreneurs, qu'aucun travail n'avait été entrepris et ont donc prononcé la caducité des baux le 8 décembre dernier, comme vous l'avez dit, avant d'en notifier les entreprises concernées. Il n'existe pour autant pas de traces publiques des correspondances entre l'État congolais et les sociétés.
Ouais, et il n'existe pas non plus de traces des conventions d'origine. A-t-on une idée, on répond à la deuxième question d'Achille, des activités que ces entreprises étaient censées mettre en œuvre ?
Oui, d'ailleurs, c'est un manque de transparence qui avait largement été critiqué à l'époque. Ce que l'on sait pour sûr, c'est qu'il s'agissait de baux emphytéotiques, c'est-à-dire de longue durée, signés avec des entreprises à capitaux rwandais et non avec l'État rwandais, comme la rumeur voulait le faire croire. Selon une source proche du dossier, des projets pour la fabrication de biocarburants ou de relance économique devaient être mis en œuvre. C'est par exemple le cas d'Eleveco Congo, l'une des rares entreprises connues qui avait été inscrite au journal officiel congolais le 18 mai 2022. Sur le décret, on peut lire qu'un projet agro-pastoral devait être développé dans le ranch de Massangui, sur une étendue de 12 000 hectares dans le département de la Bouenza pour une durée de 20 ans.
Ouais, et puis il y avait un autre projet qui avait provoqué un tollé, mais cette fois de l'autre côté du fleuve, en République démocratique du Congo.
Oui, exactement. À 70 km au nord de Brazzaville se trouve la zone économique spéciale de Maluku, juste en face des rives du Congo voisin. Dans un communiqué du gouvernement de Brazzaville datant de 2021, on peut lire que la holding Crystal Ventures, que l'on sait très proche du front patriotique rwandais de Paul Kagame, projetait d'y investir près de 200 millions de dollars. Entre autres projets d'électrification ou de réhabilitation, Crystal Ventures souhaitait y construire une ville, un centre de formation ainsi qu'un port sec. Ce pourquoi, en pleine offensive du groupe M23 à l'Est, la signature d'un contrat de bail entre Brazzaville et cette société avait installé un climat de méfiance côté quinois qui craignait une nouvelle menace qui viendrait cette fois-ci de l'Ouest.
Voilà, voilà donc pour ces explications et on comprend mieux pourquoi donc ces contrats sont désormais caducs. Achille, êtes-vous satisfait de nos explications ?
Oui, Juan, merci. Bonjour aux cousins de Brazzaville.
Ah bah écoutez, vous saluez vos cousins de Brazzaville, on les salue également. Bonne journée à Lubumbashi. À très vite, Paul Lorgerie. Il est 10h20 à Paris. Je vois un petit message sur la chaîne YouTube de RFI. C'est Intine, Un TIN, c'est bien ça. Je suis citoyen guinéen résident en France à Bordeaux. Ce qui arrive actuellement à la diaspora guinéenne est vraiment déplorable. Bon, oui, mais ça, c'est pour le débat de tout à l'heure. Gardez-en pour tout à l'heure. Je sais que vous êtes nombreux, les Guinéens, à souhaiter prendre la parole, puisqu'on va parler des opérations de recensement biométrique, opérations indispensables pour le fichier électoral en vue des prochaines élections. David nous rejoint. Bonjour.
Bonjour, Juan.
David, où êtes-vous ? Dans quel pays ?
Je suis à Lomé.
Ah, au Togo. Très bien. Vous avez des questions sur le Mali ?
Exactement.
On vous écoute.
J'ai appris sur RFI que la milice Wagner a quitté le Mali et que l'organisation Africa Corps prend le relais. J'ai le sentiment que Africa Corps n'est qu'une continuité de Wagner. Alors, quelle est la différence entre les deux organisations ?
Ah, bonne question que vous posez. Dimitri Zufferet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du collectif All Eyes on Wagner, qui est un groupe de recherche qui documente l'influence russe en Afrique. On vous doit un livre publié aux éditions Faubourg que vous avez coécrit, Wagner, enquête au cœur du système Prigogine. Voilà donc Wagner qui quitte officiellement le Mali après 3 ans et demi, 4 ans de présence. Les mercenaires de Wagner sont remplacés par un autre groupe, Africa Corps. Que sait-on de cette organisation, de ce groupe russe ?
En fait, la situation n'est pas si simple à comprendre. Il faut voir à partir du 23 août 2023, où on a le décès d'Evgeny Prigogine, ça marque à peu près la fin officielle du groupe Wagner. Très vite après, quelques messages sont apparus sur les réseaux sociaux qui annonçaient la création d'une forme de nouveau groupe, nous on appelle ça plutôt un label, qui est l'Africa Corps. Et on a donc ces deux entités qui assurent une continuité des opérations des paramilitaires russes sur sol africain et spécifiquement sur sol malien.
Ouais. Quand vous parlez de continuité, ça veut dire quoi ? Que ce sont finalement les mêmes hommes ?
Alors ce sont pour la plupart très très souvent les mêmes hommes. Ils changent simplement de casquette ou un peu d'uniforme, un nouveau patch. Mais les paramilitaires sont toujours les mêmes présents sur place. Lors de la bataille de Tin Zawatin, par exemple, on a pu voir des anciens du groupe Wagner combattre dans une unité de l'Africa Corps.
Mmh. Donc on risque finalement d'assister au même dérapage avec ce nouveau label sur le terrain.
C'est quasiment assuré, enfin, que la continuité à la fois des opérations s'opère, et là on change simplement de label, mais les activités vont rester les mêmes.
Ouais. Avec, et je parle sous votre contrôle, Dimitri Zufferet, avec cette particularité, c'est qu'Africa Corps, contrairement à Wagner, est sous les ordres du Kremlin. Africa Corps dépend directement du ministère, en tout cas c'est ce qui se dit, du ministère russe de la Défense.
Effectivement, l'Africa Corps semble, enfin, ce label Africa Corps semble être aujourd'hui plutôt sous contrôle ou de la GRU, la Direction des renseignements militaires, ou du SVR, qui est la Direction du renseignement extérieur. Et c'est ce qui nous fait dire que, à la différence de Wagner, qui est un vrai groupe indépendant, mais dépendant en gros des informations du Kremlin, que là, en gros, cette nouveau milice, ce nouveau label dépend totalement du Kremlin.
Je vais aller un peu plus loin que la question posée par David. Dimitri Zufferet, en tant qu'expert, vous qui documentez justement l'action de l'influence russe sur le continent africain, que vous inspire le calendrier, le moment choisi par Wagner pour quitter le Mali ? Est-ce que c'est une coïncidence ou vous vous dites, tiens, au regard de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, de la dégradation de la situation sécuritaire, c'était le moment pour Wagner de céder la place à Africa Corps ?
S'agit probablement cette annonce, enfin il faut rappeler qu'il s'agit pour le moment d'une annonce. On n'a pas encore vu de départ officiel, de changement d'unité, nouveaux arrivées de chefs ou comme ça. Donc on va bénéficier un peu de cet effet d'annonce. Et très probablement que ce Wagner canal historique va plutôt se rabattre sur la Centrafrique, qui reste aujourd'hui un peu le cœur des activités de Wagner canal historique.
Et il faut s'attendre à, je ne sais pas, plus de matériel d'armement russe au Mali avec ce label, je reprends votre formule, hein, votre expression, avec Africa Corps, ou pas forcément ?
C'est ce qui semblerait, d'après ce qu'on a pu monitorer, arrivé en Guinée à Conakry une livraison de matériel de guerre électronique, et ce qui laisserait sous-entendre qu'il y a un renforcement de la présence de ces paramilitaires.
Ouais. Je ne sais pas, on a répondu à vos questions, David ?
Oui, c'est clair.
C'est clair. Bon, Dimitri Zufferet, merci infiniment. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage publié aux éditions Faubourg, Wagner, enquête au cœur du système Prigogine. David, bonne journée. On a des difficultés aussi bien pour rappeler Janvier, qui est à Gonougaïa, dans le sud-ouest du Tchad. Alors ça, c'est une chose. Mais en plus, on a des difficultés pour contacter Sédi Kaba, qui était censé lui répondre. Sédi Kaba, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. On me dit qu'il est avec nous. Bonjour Sédi Kaba.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous vos auditeurs.
On est ravis quand la technologie et les télécommunications fonctionnent. Je vais me faire le porte-parole de Janvier, qui pour le coup, le réseau ne passe plus hein, avec le sud-ouest du Tchad. Janvier a entendu sur notre antenne que dans un rapport, l'ONU déplorait les attaques de drones menées par Boko Haram contre l'armée camerounaise dans l'extrême nord du Cameroun. Et Janvier se demandait comment Boko Haram se procure-t-il ces drones, et il voulait savoir quelle était aujourd'hui la puissance de frappe de ce groupe djihadiste. Sédi Kaba, il s'agit de drones chargés d'explosifs. On est d'accord?
Oui, absolument. Il y a d'autres sources que le rapport des Nations Unies qui confirme que Boko Haram, particulièrement la section, l'aile qu'on appelle ISWAP, la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qui se situe dans le bassin du lac Tchad, cette aile donc, possède aujourd'hui des drones armés et dont la valeur est estimée entre 4 et 20 millions de dollars. L'hypothèse la plus forte et la plus probable, celle à laquelle j'adhère, c'est que ce matériel a pu être dérobé auprès d'un des pays de la sous-région parce que Boko Haram n'a pas les capacités financières d'en acquérir. Mmh. Donc après avoir dérobé ce matériel, Boko Haram s'en sert aujourd'hui et ça vient renforcer la puissance de feu entre guillemets de Boko Haram puisque déjà par le passé, et Boko Haram a acquis la technique de fabriquer et d'utiliser des engins explosifs improvisés. Maintenant, avec le drone, ça renforce sa capacité militaire, comme on a pu le voir déjà à la fin de l'année dernière, avec l'attaque que Boko Haram a portée contre une position de l'armée tchadienne dans le lieu du lac, qui est quand même l'armée la plus aguerrie. Et au cours de cette attaque, l'armée tchadienne avait perdu près d'une cinquantaine d'hommes.
Ouais, vous parlez, excusez-moi, de matériel dérobé à un pays de la sous-région. Est-ce que vous pouvez être peut-être un peu plus explicite? Avez-vous une idée où ce matériel a été dérobé?
Oui, c'est-à-dire que quand, comme au Sahel central, lorsque les groupes terroristes attaquent des casernes, des positions de l'armée, et ils récupèrent quand les forces de défense et de sécurité des pays se retirent. Souvent, ils n'ont pas le temps de récupérer l'ensemble du matériel et le matériel est récupéré par les groupes djihadistes. Mmh. Et les groupes djihadistes du Sahel central aussi ont des drones qu'ils n'ont pu récupérer que sur des forces de défense et des forces de sécurité de la sous-région. Malheureusement, nous sommes dans cet engrenage où le matériel sophistiqué est acheté par les pays et souvent, à l'occasion d'attaques, les forces, les groupes djihadistes récupèrent ce matériel et le retournent contre les forces, et ça prouve aujourd'hui la capacité, la puissance de fait de ce groupe djihadiste. Dans le cas de Boko Haram aussi, on le voit avec la répétition des attaques ces derniers temps, ouais. Y compris au Niger, au Cameroun, au Nigeria et au Tchad.
Merci Sédi Kaba de votre expertise, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Et je renvoie les auditeurs à votre dernier ouvrage, Voyage au cœur de Boko Haram, enquête sur le djihad en Afrique subsaharienne. C'est aux éditions L'Harmattan. Janvier, si vous écoutez RFI, ben voilà pour nos explications. Et si vous avez pris l'analyse de Sédi Kaba en cours, pas de problème, séance de rattrapage quand vous le souhaitez sur l'application RFI Pure Radio, comme toutes les explications des experts et des journalistes de RFI qui tous les matins viennent dans ce studio pour répondre à vos questions. Vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. On attend durant les 30 prochaines minutes vos témoignages sur le recensement biométrique de la population en Guinée. Les problèmes sont nombreux, ils sont signalés dans la quasi-totalité du pays. Vous aurez l'occasion évidemment de vous vous exprimer. Mais d'abord, le journal.